Bonjour, bienvenue à En Action, notre podcast sur l'activité physique et la santé. Mon nom, c'est Daniel Rioux, kinésiologue. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu Boucher. Bonjour. Salut Mathieu.
Bonjour tout le monde.
Mathieu, c'est le directeur de course du Trail du Grand-Duc qui va avoir lieu dans quelques semaines. Alors aujourd'hui, on est là pour discuter de comment se préparer à une course qui a lieu en automne. Fait que Matt, tu pourrais commencer peut-être par nous parler un petit peu de c'est quoi les particularités d'une course en automne, puis comment on fait pour bien se préparer à ça?
Ben oui, c'est ça, pour mettre en contexte, là, nous, le Trail du Grand-Duc, c'est un événement où les gens vont faire de 5 à 66 km là, en sentier dans le parc national de la Jacques-Cartier. Fait que c'est sûr que chaque événement va avoir un petit peu ses particularités, mais il y a quand même des grandes lignes qui se répètent d'un événement à l'autre. Fait que c'est sûr qu'il faut regarder un peu, bien évidemment, notre niveau d'expérience, mais aussi regarder comme à quel endroit on s'en va, puis à quel moment de l'année, là, surtout parce qu'il va y avoir des enjeux très différents à l'automne par rapport au mois d'août ou par rapport au printemps.
Ouais. Fait qu'on a moins peur, en tout cas, pour les coups de chaleur.
Effectivement, ça, c'est beaucoup plus rare.
Si on commence par l'équipement, là, comment est-ce que... C'est quoi qui des choses à éviter? Il y a des choses à absolument apporter et des choses à absolument éviter si on veut bien se préparer pour un trail qui a lieu d'automne?
Ben oui, c'est tout le temps un peu de peser les pour et les contre, là, puis aussi de regarder, des fois, est-ce que ça vaut vraiment la peine de traîner quelque chose? Il y en a qui sont plus de l'approche minimaliste, qui veulent avoir le moins de poids sur eux possible. Quitte à se mettre à risque, finalement, en parenthèse. Puis, il y a des gens qui vont avoir un gros sac à dos, plus en mode randonnée, puis qui vont avoir plusieurs couches. Fait qu'effectivement, il y a des choses qu'on suggère très, très fortement, voire obligées, surtout en contexte automnal, d'avoir une couverture de survie là, d'aluminium qui se trouve n'importe où, là, dans les magasins... Dollarama, par exemple. Fait que ça ne coûte rien, puis ça peut vraiment nous rendre service. Ou aussi, en fait, je pense que par rapport à l'équipement, ce qui est important de se dire, c'est que ça peut me rendre service, mais ça peut aussi rendre service à quelqu'un que je vais croiser qui est en difficulté. Parce que c'est facile de se dire, oh, moi, je suis en forme, il ne m'arrivera rien, mais on ne sait pas qui on peut croiser dans les sentiers. Fait que je pense qu'il y a aussi une partie de ça, une partie de l'équipement qui peut aussi... Être pour les autres. Fait que la couverture de survie, je pense que c'est vraiment un must. Puis une forme de sifflet. Il y a même des sacs à dos d'hydratation, des fois qui ont un sifflet intégré sur une sangle ou sur une clip. Fait que ça peut être très, très pertinent si, par exemple, on est perdu ou on a besoin d'aide, puis on veut pas... On a mal à la gorge déjà, on ne va pas crier pendant des heures, siffler, ouais. Ça va faire beaucoup plus de son, puis prendre beaucoup moins d'énergie.
Puis on ne se pose pas la question, qu'est-ce qu'on a entendu aussi, là, quand
oui.
Je suis dans le bois, j'entends un sifflet, je me doute que c'est pas de la flûte, là.
Exactement. C'est pas des feux.
C'est ça.
Donc ça, sifflet, couverture de survie. Après ça, évidemment, il y a des fois, on va regarder la quantité d'eau, des aliments qu'on va traîner aussi. Évidemment, c'est d'avoir un petit quelque chose à manger. Évidemment, il va y avoir une grosse variabilité entre est-ce que je vais faire une part pour faire 66 km ou est-ce que je pars pour faire 5 km. Évidemment, sur 5 km, il y a la grande majorité des gens, ils partent les poches vides, puis c'est bien correct. Mais tu sais, quand on sait qu'on va dépasser une heure en forêt ou qu'on a la possibilité de dépasser une heure en forêt parce que des fois on va se faire un plan de course, un plan de match, puis on va se dire ça devrait me prendre à peu près 50 minutes, mais on sait très bien des fois qu'on peut avoir une mauvaise journée, les conditions peuvent être très difficiles, on peut avoir mal analysé le parcours, puis se rendre compte que notre 50 minutes devient 1h10, 1h15 ou plus. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que si on n'a pas l'expérience d'avoir fait des événements en sentier, si on n'a pas fait beaucoup de sorties d'une durée de 1h30, par exemple, puis on prévoit faire ça, prenez donc quelques grammes de plus, des précautions, s'ajouter une barre tente de plus ou s'ajouter du moins une gourde à la limite vide, mais que vous pourrez remplir dans un ravitaillement.
C'est une bonne idée. Puis en termes de vêtements, là, tu sais, c'est, j'imagine que c'est aussi la même chose. Si tu as moins d'expérience, j'imagine que tu es mieux d'en amener peut-être un petit peu plus. Je me souviens du trail qu'on avait fait en 2018, si je me souviens bien, là, où est-ce qu'il pleuvait, puis c'était un mélange de pluie puis de neige là, pendant quasiment toute la journée. Mais il y avait quand même beaucoup de monde qui avait été forcé à abandonner, pas parce que nécessairement ils n'étaient pas assez en forme pour faire l'épreuve, mais parce que dans le fond, les conditions ont rendu ça plus difficile que ce à quoi ils s'attendaient, puis il y avait trop froid pour continuer. Là. Ouais. C'est quand même dommage, mettons, si tu t'entraînais tout l'été, de pas réussir ton épreuve parce que tu t'es pas traîné un manteau supplémentaire ou parce que tu n'as pas mis des leggings au lieu des shorts. Là,
ben ouais,
des fois, c'est peut-être mieux d'être un petit peu plus prudent en termes de vêtements aussi, j'imagine.
Oui, effectivement. T'sais, des fois, c'est pas justement des choses qui prennent beaucoup de place. T'sais, un coup de vent, des coups de vent techniques, il y en a qui se replient dans la paume de la main là, maintenant. Fait que c'est, il n'y a pas vraiment d'excuse pour ne pas se traîner une veste ou du moins une couverture de survie, un chandail à manches longues qu'on peut à la limite s'attacher autour de la taille si on ne veut plus le traîner. Ou les petits sacs à dos nous permettent de traîner un peu de tout maintenant sans trop prendre de place. Mais c'est ça, c'est un super bon exemple qu'on a vécu à l'événement il y a 3 ans, que même des coureurs qui étaient très habitués, qui étaient nos fermeurs de parcours, qui sont des coureurs chevronnés, qui ont dû abandonner parce que justement, tout le monde était comme surpris par le froid, puis le vent à ce moment-là aussi. Fait qu'effectivement, là, c'est faut se faire un plan, puis il faut aussi, c'est ça, regarder le matin même, quand on se réveille, qu'est-ce qui fait comme température, puis préparer dans notre voiture déjà peut-être 6-7 options différentes de plus au cas où là, qu'on ait besoin.
En termes de chaussures, y a-tu des différences par rapport à la course d'été? Suggérerais-tu, mettons, d'avoir des chaussures peut-être plus chaudes ou en Gore-Tex, vu que s'il pleut, ben, ça va peut-être être un petit peu plus chaud? Ce serait quoi ta recommandation?
Je pense que c'est difficile de faire des recommandations dans ce sens-là parce que c'est très, très personnel. Il y a des gens qui vont beaucoup apprécier la chaussure plus du type hiver ou Gore-Tex parce qu'ils sont plus sensibles au froid pour les pieds. Mais c'est sûr que dans des conditions automnales, souvent, on va croiser des trous d'eau, on va croiser de la vase, et ainsi de suite. Puis au bout du compte, j'ai l'impression que la chaussure d'hiver va se retrouver pleine d'eau pareil. Là. Elle va peut-être nous garder un peu plus au chaud quand même, c'est sûr. Mais ça ne fera pas une différence énorme au bout du compte. Fait que je pense que là, c'est de faire nos tests. Mais c'est sûr que c'est un must. Puis on ne peut pas éviter d'avoir des chaussures de sentier vraiment. Parce que même si on se dit, on est dans un parc de la CEPAC, il va y avoir beaucoup de sentiers très bien aménagés. Ça prend juste un petit peu d'eau dans le sentier pour que soudainement, il devienne très glissant. Ben ouais. Fait que même notre chaussure de route qui pourrait faire peut-être en condition d'été puis de chaleur, ben là, à ce moment-là, ça ne fonctionne plus du tout en automne. Là. Fait que je pense que ça, c'est inévitable là, d'avoir au moins des bons crampons sur nos chaussures. Puis des bas un peu plus hauts, justement, parce qu'on va avoir, on va courir dans les feuilles, on va courir dans des branches un peu plus. Fait qu'on est plus sujet à s'accrocher les pieds, puis on veut rester au chaud un peu plus.
Ouais. D'ailleurs, avec les feuilles, j'imagine qu'il faut peut-être être un peu plus prudent. Des fois, les feuilles, maintenant, peuvent s'accumuler sur une roche, puis ça devient super glissant dans ce temps-là. Comment on gère ça, les feuilles?
Effectivement, ben c'est ça. Il y a du travail qui se fait dans les événements d'automne pour aller souvent souffler les feuilles, puis nettoyer un peu les sentiers durant la semaine qui précède l'événement, mais des fois, juste une grande bonne tempête de vent la nuit qui précède, puis c'est à recommencer. Fait que c'est sûr que oui, effectivement, c'est un bon point que oui, ça va être plus glissant, puis des endroits où il y a des trous d'eau qui normalement se draineraient, puis le sentier deviendrait sec, ben là, s'il est rempli d'eau, de feuilles, le sentier va rester mouillé plus longtemps, fait que ça contribue à augmenter le fait que les conditions soient plus glissantes. Tous les petits ponts de bois deviennent soudainement un petit peu plus à risque. Puis on voit moins les obstacles, les branches, les racines, les roches. C'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention si on est moins habitué. Ben là, il y a des sections où on va peut-être vouloir plus marcher ou ralentir un peu notre jog plutôt que d'accélérer. Là.
Fait qu'il faut être prudent. En résumé, si on pense à l'équipement, il faut être peut-être un petit peu plus prudent en termes d'équipement pendant l'automne que ce qu'on a été pendant l'été, ou est-ce que les conditions sont souvent plus adéquates pour les humains, là, disons.
Oui, c'est clair. Puis tu sais, même s'il fait beau la journée de l'événement, c'est sûr que les nuits sont très froides. Fait que, tu sais, justement, les sentiers ne sèchent pas. Fait que même s'il fait beau, on ne peut pas se dire, ah, ça va être comme en été s'il fait 12-13, par exemple. C'est sûr que c'est pas un 12-13 du printemps souvent parce que l'eau s'est plus accumulée dans les sentiers, si tu veux, en automne.
Cool. Fait que pour l'équipement, c'est pas mal ça. Dans le fond, on est plus prudent que moins. Mais après ça, pour se préparer, mettons, là, on était à 2 semaines de l'événement. Comment est-ce qu'on peut faire pour rattraper le temps perdu si on n'est pas assez entraîné? Puis si, mettons, on est déjà bien entraîné, ce serait quoi les prochaines étapes qui suivent si on va être prêt la journée d'événement puis avoir du plaisir aussi?
Oui. Ben, partons avec la personne qui est bien entraînée, mettons, pour faire une course en sentier. Je pense que c'est vraiment d'analyser qu'est-ce qu'on va faire comme épreuve, parce qu'on peut courir, par exemple, dans notre région en sentier fréquemment, mais c'est de regarder, ben, moi, avant de faire une course, un événement, j'aime bien regarder le profil du parcours, savoir les premiers kilomètres, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que rapidement je vais tomber dans une côte en montée, est-ce que je vais être en descente très longtemps pour un peu tempérer mes efforts, est-ce que je sais que dans les premiers kilomètres, je peux me permettre de me laisser emporter et aller plus vite ou je devrais vraiment comme garder mes énergies pour un certain moment. Ça nous permet aussi de regarder, ben, est-ce que s'il y a une montée après un kilomètre, combien de temps elle dure? Est-ce que je devrais tout de suite commencer à marcher dedans parce que je le sais qu'elle dure un kilomètre ou est-ce que je peux me permettre de jogger dedans pour ne pas être surpris finalement par le type de parcours? On peut regarder aussi c'est quoi justement le style de sentier. Est-ce que j'ai un grand bout à faire de sentier plus large? Est-ce que j'ai des sentiers très étroits? Quelque chose que j'aime faire aussi, puis c'est de regarder aussi avec des ravitaillements. Ben, est-ce que j'ai des trucs qui peuvent me dire, ben là, je vais devoir tourner à droite à tel endroit. Évidemment, les événements préparent un balisage le mieux possible pour leur événement, mais des fois, on a des moments d'inattention, on suit quelqu'un puis on ne regarde pas nécessairement où on va. Des fois aussi, il y a des courses qui commencent à la noirceur comme on va avoir pour le 66 km. Fait que de savoir, ben, quand je vais être rendu à tel ravitaillement, je dois tourner à gauche. Fait que, évidemment, ça devient un peu un exercice de mémoire. Quand ça fait 2 heures qu'on est dans le sentier, on ne pense plus nécessairement à tous ces trucs-là, mais on peut se prendre des notes, l'écrire dans notre téléphone ou se mettre des repères là, pour savoir, ben, je vais arrêter au kilomètre 7 pour un ravitaillement à kilomètre 14, etc. Fait que pour quelqu'un qui est prêt, c'est sûr que c'est les derniers détails. Là, c'est de futer un peu notre sac à dos puis voir justement qu'est-ce qu'on veut traîner. La personne qui n'est pas prête, mais qui a par exemple couru sur route toute l'été puis qui s'engage sur un 18 km puis qui a déjà fait des sorties relativement longues, de la randonnée, ben il y a quand même des choses qui peuvent être faites à la dernière minute pour s'aider. T'sais, je pense que la première chose que je dirais à quelqu'un, c'est ben, va donc faire une randonnée en fin de semaine, tu vas voir c'est quoi marcher dans des conditions d'automne déjà. Les feuilles ont commencé à tomber dans notre région. Puis ça va me permettre de tester un peu qu'est-ce que ça dit avec mes espadrilles, mon type d'espadrilles que je vais vouloir mettre, puis mes vêtements, puis aussi de voir justement si je n'ai pas sorti à des températures plus faibles comme en ce moment, ben, comment je vais m'habiller, parce que évidemment, faut l'avoir expérimenté, quel genre de veste je veux mettre si je veux pas avoir trop chaud. Puis aussi entraîner certains groupes musculaires, parce que oui, c'est pas vrai qu'on va être prêt à gagner la course si on n'a pas fait de trail de l'été, mais quand même, on peut faire quelques sorties dans les 2 prochaines semaines, du moins, pour préparer nos chevilles, préparer nos réflexes aussi face aux obstacles, finalement.
Les descentes aussi, parce que si tu as couru tout l'été, tu es relativement en forme, les montées, ça va relativement bien. C'est pas technique, c'est pas dangereux. Tout ce que tu as à faire, c'est respirer puis forcer. Mais souvent, on n'y pense pas, mais les descentes, c'est là qu'il y a beaucoup de temps qui se gagne puis qui se perd, puis de blessures qui se font aussi. Là. Si tu descends pendant longtemps, il faut y réfléchir un petit peu à l'avance puis le préparer aussi. Là. Peut-être se préparer à descendre en courant pendant longtemps, c'est pas toujours plaisant. Des fois, tu peux être tanné de descendre. Ça arrive. Là, fait
non,
que,
c'est clair.
C'est un autre truc peut-être à préparer à soir.
Non, mais il y en a. C'est un peu... Ben, genre d'anecdote, parce que sur le parcours de 50 km puis 66 km, vers la fin, en tout cas, il y a une descente, il y a un faux plat descendant de plus de 10 km qui peut sembler être à un endroit où on reprend du temps finalement. Puis après ça, il y a une section plus difficile. Puis vers la fin de la course, c'est relativement plat, mais il y a beaucoup de coureurs qui disaient, hey, je m'attendais à ce que ça se fasse bien, mais rendu justement à la fin du faux plat, les gens vont comme trop vite. Fait que là, c'est là qu'on crée des bris musculaires qu'on regrette plus tard quand ça redevient plus difficile. Quand ça remonte.
Puis, est-ce que je me trompe ou, dans le fond, si j'ai couru tout l'été, mettons, je cours, puis mettons, ma plus longue sortie, elle dure 1h30, ben c'est plus ça qu'il faut regarder, le temps de ma longue sortie, plutôt que le nombre de kilomètres. Mettons, je te donne un exemple, j'ai fait une longue sortie cet été, là, ou récemment, de 15 km, ça m'a pris 1h30. Ben, on peut s'attendre à ce que je sois comme correct pour faire une épreuve qui va durer environ 1h30 et non 15 km.
Oui, c'est un super bon point parce que nous, quand on fait nos estimés de temps de passage, évidemment, pour les coureurs très rapides, on va calculer 4 minutes, 5 minutes du kilomètre pour les premiers, mais pour les derniers, on met une vitesse de marche. Fait que pour quelqu'un qui va faire un 18 km, ben, on s'attend à ce que le dernier prenne 3 heures. Ce qui pourrait être un temps de quasiment de marathon pour ben du monde, là, où ça se rapproche d'un temps de 30 km sur route, là, un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. Fait qu'effectivement, il faut se dire que faut pas s'attendre à courir tant que ça, finalement. Ouais. Même si le parcours est relativement facile, selon ce qu'on voit par le dénivelé, on se fait toujours prendre par justement le froid, puis les côtes, c'est un défi de plus auquel on n'est peut-être pas habitué. Fait que faut vraiment s'attendre à être pas mal plus lent que ce qu'on fait habituellement.
Mettons, là, si on se fait une règle du pouce, là, mettons que j'ai fait une longue sortie qui dure une heure cet été, puis que j'ai fait 10 km sur route, mettons, on pourrait-tu dire que c'est, je vais faire environ 75% de cette distance-là? Fait que mettons, je pourrais dire que je serais correct, c'est l'équivalent, mettons, de une course en sentier de 7,5 km ou peut-être un peu moins 7 km, ça serait quoi ton estimation?
Ah, je pense que, j'ai pas de réponse.
Ça dépend très bien des sentiers.
Je pense
là,
que oui, effectivement. Il y a des sentiers qui sont extrêmement difficiles, puis d'autres, je pense que dans notre événement, on est plus dans la moyenne en termes de difficulté. Puis, un genre de 70%, 70-75%, c'est probablement proche de la vérité. Là.
Fait que si, mettons, je regarde ça, puis là, mettons, j'ai fait, je sais pas, ma plus longue sortie, c'était 2 heures, puis là, je suis inscrit aux 50 km. Mais peut-être, une autre chose qu'on peut faire, c'est changer d'épreuve. c'est permis, là.
Fait ben, c'est permis, puis on l'encourage beaucoup, parce que c'est sûr qu'en tant qu'organisateur, on a la sécurité de tous à cœur, là. On veut pas avoir à aller chercher quelqu'un dans le bois, idéalement, fait que on encourage tout le monde à changer de distance s'il le faut, parce qu'on aime beaucoup mieux prendre quelques minutes puis vous transférer de distance qu'aller vous chercher dans le bois, parce que ça va pas du tout. Là.
Puis aussi, on aime ça que les gens ils réussissent leur épreuve. C'est plus satisfaisant pour tout le monde quand les gens ils rentrent à bon port sur leurs deux jambes fait que, plutôt qu'en voiture. Là, fait que...
Non, c'est ça.
Ouais.
Okay. Mais c'est un bon point aussi ce que tu dis, revenir sur nos deux jambes ou en voiture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions, puis on parlait de la préparation tantôt.
Ouais.
Des fois, on a des gens qui viennent avec nous pour la course, puis il y en a qui vont dire, ben ça, c'est quelque chose qu'on permet à notre événement, c'est que je peux avoir des accompagnateurs qui viennent, par exemple, me rejoindre à un ravitaillement, puis me traîner quelque chose, ben on parlait des vêtements. Peut-être de donner votre bac de vêtements à vos accompagnateurs qui vont peut-être vous rejoindre à certains endroits. Ils peuvent vous donner un coup de main et vous prêter des vêtements de plus ou de moins. Là. Fait que là, ça peut être une alternative si on n'est pas sûr de notre plan de match.
C'est un bon point. Puis, dans le fond, en terminant, y a-tu d'autres trucs à savoir pour être arrivé bien prêt là, à cet événement-là, au Trail du Grand-Duc ou à un autre événement d'automne, là, mentalement, comment on approche ça, mettons?
Oui. Je pense qu'il faut être prêt un peu à tout, puis il faut être prêt à ce que le plan de match prenne le bord assez rapidement, parce que tu sais, on l'a vu justement dans des situations où finalement ça se peut que ce soit la première neige de l'année ce matin-là, notre plan de match de battre notre record de vitesse puis de faire telle section très rapidement, il fonctionnera peut-être pas. Puis peut-être aussi que cette journée-là, le gel qu'on a mangé, on ne va pas le digérer.
Il est gelé.
Puis peut-être qu'on va décider de prendre un verre de coke de plus au ravitaillement parce qu'on se sent plus faible. Puis notre estomac ne va pas aimer cette idée-là ce matin-là aussi. Fait qu'il y a énormément de facteurs qui font qu'une course est réussie ou pas. Là.
Ouais.
Puis ça, des fois, ça dépend de la préparation. Puis des fois, ça dépend des astres. Puis des fois, ça dépend de la chance. Donc, je pense qu'il faut être un peu prêt à tout puis prêt à s'adapter puis se dire, bon, ben OK, mon plan de match A n'est pas accompli. C'est quoi mon B, puis c'est quoi mon C, puis réévaluer ça au fil de l'événement, là, finalement.
Fait que dans le fond, si on récapitule, on part avec peut-être un petit peu plus de vêtements puis d'équipements que ce qu'on pourrait en avoir besoin pour être prudent sur les sentiers. Mais ça vaut aussi comme si on va faire une rando en fin de semaine dans les couleurs. Là, dans le fond, c'est pas juste quand on va courir, c'est en général. Après ça, ben, on part de façon plus flexible là, dans notre tête. Là, on se donne la chance de peut-être de changer de mode, de mettre en passant d'un mode compétitif à un mode peut-être plus plaisir ou quelque chose comme ça en fonction des conditions. Puis après ça, ben, on essaie d'arranger de planifier comme il faut notre course puis pour pas être surpris par une montée ou des choses comme ça.
Ouais.
Ça récapitule-tu pas mal?
Ben oui. Ouais, puis tu sais, si je reviens juste à des trucs, équipements, il y a quelque chose qui est très simple aussi qui peut nous aider aujourd'hui, c'est un téléphone. Là.
Ouais.
Ne serait-ce que, tu sais, oui, des fois, on est dans des endroits qui n'ont pas de signal, mais on peut aussi avoir de la couverture à bien des endroits. Fait que traîner un cellulaire, je pense qu'en côté sécurité, c'est quasiment un must là, maintenant dans la plupart des événements. C'est sûr, traîner les coordonnées là, d'urgence pertinent pour votre événement. Là.
Ben ouais.
Puis chaque événement va vous envoyer les informations à cet effet-là. Fait que,
Super. Hey, ben merci, Matt. Yes. Je me sens prêt, là.
On a hâte de voir.
Fait que, ben merci tout le monde. Puis,
merci à vous.
Bonne course.
Yes.
Salut.